Chapitre 41. D'après les calculs de Fanny, Edmond devait être à Londres depuis une semaine, et cependant, elle n'en recevait aucune nouvelle. Elle tirait trois conclusions de ce silence, entre lesquelles son esprit flottait incertain. Son départ avait peut-être été différé, ou bien il n'avait point encore eu l'occasion de voir Miss Crawford, ou peut-être il était trop heureux pour avoir le temps d'écrire une lettre. Peu de jours après, il y avait un mois d'écoulé depuis son départ de Mansfield, ce qu'elle ne manquait jamais de calculer chaque jour, elle et Suzanne s'apprêtaient à se retirer, suivant leur usage, dans l'appartement d'en haut, lorsqu'un coup de marteau annonça une visite. L'empressement de Rebecca à aller ouvrir la porte, fonction qu'elle préférait à tout autre, les empêcha de pouvoir l'éviter. C'était la voix d'un gentleman. C'était une voix qui avait déjà répandu la pâleur sur le visage de Fanny lorsque M. Crawford entra dans la chambre où elle se trouvait. Le bon sens qu'elle possédait ne tarda pas à venir à son aide. Elle présenta M. Crawford à sa mère comme un protecteur de William, quoiqu'elle aurait pensé auparavant qu'elle n'eût pas été capable de proférer une syllabe dans une pareille situation. L'idée que M. Crawford se présentait comme l'ami de William lui donnait un peu de courage, mais après l'avoir nommé ainsi à sa mère, et après que l'on eut pris des sièges, l'effroi que cette visite lui inspirait se renouvela, et elle se croyait sur le point de s'évanouir. Pendant qu'elle cherchait à se ranimer, Crawford, qui d'abord s'était avancé vers elle avec un air aussi empressé qu'à aucune autre époque antérieure, eut l'attention de détourner ses regards pour lui donner le loisir de reprendre ses esprits. Il s'occupait entièrement de Madame Price et lui parlait avec une politesse, une convenance d'expression et en même temps un degré d'intérêt qui rendait ses manières d'être parfaites. Celle de Madame Price était également on ne peut plus convenable. Animée par la présence d'un pareil ami de son fils et par le désir de paraître avantageusement devant lui, ses expressions étaient celles de la reconnaissance maternelle et elles ne pouvaient que plaire. M. Price était sorti, ce que Mme Price regrettait beaucoup. Fanny avait assez repris ses sens pour sentir qu'elle ne devait pas partager ce regret. Elle ne pouvait se défendre d'un sentiment de confusion à cause de l'état de la maison où Crawford la trouvait. La présence de son père n'aurait fait qu'augmenter ce pénible sentiment. On parla de William. Mme Price ne pouvait tarir sur ce sujet et M. Crawford montrait un intérêt pour son fils aussi vif qu'elle pouvait le désirer. Elle pensait qu'elle n'avait jamais vu de sa vie un homme aussi agréable, et elle s'étonnait qu'il ne fût venu à Portsmouth, ni pour visiter le port amiral, ni pour rendre visite au commissaire, ni même pour voir le chantier. Il était arrivé la nuit précédente pour rester un jour ou deux à Portsmouth, sans avoir aucun de ses projets. Pendant qu'il donnait ses détails, Fanny avait eu le temps de reprendre courage. Elle put soutenir assez bien les regards de Crawford et apprendre de lui qu'il avait passé une demi-heure avec sa sœur le soir où il avait quitté Londres et qu'elle l'avait chargé de ses plus tendres compliments pour elle, mais qu'elle n'avait pas eu le temps de lui écrire. Que son cousin Edmond était à Londres, qu'il ne l'avait pas vu, mais qu'il était en très bonne santé et qu'il avait dû dîner la veille avec la famille Fraser. Après avoir parlé de Mansfield et de ses habitants, Crawford commença à proposer à demi une promenade du matin. « La matinée, disait-il, était superbe, et à l'époque de l'année où l'on se trouvait, une belle matinée était si souvent métamorphosée en mauvais temps qu'il était très sage de ne pas différer d'en profiter. » Madame Price dit qu'à l'exception du dimanche, elle ne sortait pas de sa maison à cause des soins que sa nombreuse famille exigeait, mais elle permit à ses filles de profiter de l'offre de M. Crawford, et 10 minutes après, Fanny, toute surprise et honteuse, était dans la grande rue avec M. Crawford, qui donnait aussi le bras à Suzanne. Ce fut bientôt peine sur peine, confusion sur confusion. Au bout de quelques instants, les promeneurs rencontrèrent M. Price, dont la toilette était d'autant moins recherchée que ce jour-là était un samedi. Il s'arrêta, et comme il regardait l'étranger qui conduisait ses filles d'un air peu poli, Fanny fut obligée de lui présenter M. Crawford. Elle ne pouvait former de doute sur l'impression que Crawford devait éprouver. Il devait être choqué, il devait renoncer à toute idée de former une pareille alliance. Et quoique Fanny eût vivement souhaité que l'affection de Crawford pour elle cessât, cette sorte de conclusion lui était pénible. M. Crawford ne pouvait avoir la pensée de prendre son futur beau-père pour modèle dans la manière de se vêtir. Mais, ainsi que Fanny le remarqua promptement avec une vive satisfaction, M. Price était un homme très différent en présence d'un pareil étranger de ce qu'il était ordinairement chez lui. Ses manières, sans être très polies, étaient plus que passables, ses expressions étaient celles d'un père reconnaissant, d'un homme sensible. Sa voix forte ne faisait point un mauvais effet en plein air et aucun jurement ne sortait de sa bouche. C'était un compliment qu'il faisait aux bonnes façons de M. Crawford, et quel que pût être le résultat de cette entrevue, les sentiments que Fanny éprouvait se trouvaient infiniment plus doux. M. Price offrit à M. Crawford de le conduire dans le chantier, ce que ce dernier accepta dans l'espoir d'être plus longtemps avec Fanny et de pouvoir lui parler. Un ami de M. Price l'étant venu trouver dans le chantier pour lui montrer quelque chose, Crawford resta seul avec Fanny et Suzanne, mais une jeune fille de l'âge de Suzanne était un auditeur bien différent de Lady Bertram. Suzanne était tout yeux, tout oreille. Il n'y avait pas moyen de parler de l'objet principal devant elle. Crawford fut obligé de se borner à être généralement agréable dans la conversation et à y faire participer Suzanne en adressant de temps en temps un coup d'œil significatif à Fanny, mieux instruite de ce dont il parlait. Son voyage à Norfolk et quelques détails sur ce qu'il y avait appelé furent le principal aliment de la conversation. Il avait eu, disait-il, l'occasion de faire plus de bien dans ses terres qu'il ne l'avait pensé, et il avait éprouvé qu'en remplissant un devoir, il s'était préparé d'agréables souvenirs. Il avait visité plusieurs de ses fermiers qu'il n'avait jamais vus, il avait fait connaissance avec des chaumières dont il avait ignoré jusque-là l'existence, quoiqu'elles fussent placées sur son propre domaine. Cela était dit et bien dit pour Fanny. Elle se plaisait à entendre Crawford parler d'une manière si convenable. Il avait agi comme il devait le faire, en se montrant l'ami du pauvre. Rien ne pouvait être plus agréable pour Fanny, et elle était sur le point de lui adresser un regard d'approbation, quand elle fut effrayée en lui entendant ajouter quelque chose de trop prononcé sur son espérance d'avoir une aide, une amie, un guide dans tous ses plans de bienfaisance pour sa terre d'Everingham, d'avoir auprès de lui quelqu'un qui lui rendrait la terre d'Everingham plus chère qu'elle ne lui avait jamais été. Fanny détourna la conversation. Elle aurait voulu qu'il n'eût point dit ses dernières paroles. Elle était disposée à reconnaître qu'il pouvait avoir plus de bonnes qualités qu'elle ne lui en avait supposées. Elle commençait à croire possible qu'il finît par tourner à bien. Mais néanmoins, il ne lui convenait pas, et il aurait dû, suivant elle, ne point lui adresser ses vœux. Crawford s'aperçut qu'il avait assez parlé d'Everingham, et il dirigea la conversation sur Mansfield. Il ne pouvait choisir un meilleur sujet. C'était le moyen d'attirer à l'instant l'attention et les regards de Fanny. Elle goûtait un véritable plaisir à entendre parler de Mansfield ou à en parler elle-même. Lorsque M. Price revint avec son ami, M. Crawford profita d'une minute où il n'était point observé pour dire à Fanny que la seule cause de son voyage à Portsmouth était l'espérance de la voir, qu'il n'y était venu pour une couple de jours qu'à cause d'elle seule, et parce qu'il n'avait pu supporter plus longtemps d'être entièrement séparé d'elle. Fanny fut mécontente, très mécontente, et cependant, malgré cette déclaration et deux ou trois autres choses semblables qu'elle aurait désiré que M. Crawford n'eût point dit, elle le trouvait tout à fait changé à son avantage depuis son départ de Mansfield. Il était beaucoup plus doux, plus obligeant, plus attentif pour les sentiments des autres personnes qu'il ne l'avait jamais été à Mansfield. Elle ne l'avait jamais vu si agréable, si près de lui être agréable. Sa conduite envers le père de Fanny était on ne peut plus convenable, et il y avait quelque chose d'une bonté particulière dans les attentions qu'il avait pour Suzanne. Il s'était décidément amélioré. Avant qu'ils se séparassent, Fanny eut un autre sujet de lui savoir bon gré de sa conduite. M. Price pria M. Crawford de lui faire l'honneur d'accepter son dîner, et Fanny tressaillit d'épouvante. Mais M. Crawford répondit qu'il avait des engagements pour ce jour-là et le jour suivant, que cependant il aurait l'honneur de rendre ses devoirs à Mme Price le lendemain. On se sépara, et Fanny éprouva un sentiment de félicité d'être échappée à l'horrible désagrément qu'elle avait redouté pendant un instant. Elle avait été effrayée de l'idée de voir M. Crawford assister à leur dîner de famille sans pouvoir éviter de remarquer ce qui leur manquait, de voir les plus jeunes enfants mettant tout en désordre et de se convaincre du peu de talent de la servante Rebecca. Fanny avait une délicatesse naturelle et, de plus, elle avait été élevée à l'école du luxe et de l'épicurisme.